Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Père, je te remercie pour ta parole. Je prie pour que ce peuple puisse absorber cette parole encore. Je prie pour que ta puissance puisse venir et toucher les cœurs. Que l'onction, Seigneur, vienne et parle au cœur des gens. Pour que nous puissions tous progresser, Seigneur. Tous avancer avec toi. Et réussir, Seigneur, ce que tu nous demandes de réussir. Tu nous appelles, Seigneur, à pouvoir réussir nos vies, Seigneur. Et nous voulons réussir nos vies. Nous voulons comprendre tous les ingrédients que tu as mis dans ta parole pour que nous puissions réussir notre destinée. Et qu'ensemble, Seigneur, en tant qu'église locale aussi, nous puissions pleinement réaliser la vision que tu as mis dans nos cœurs. Parce que c'est ce que tu veux, mon Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham. Et nous sommes en train de voir que cet homme avait vraiment un appel extraordinaire. C'est lui qui a eu le plus grand appel qu'aucun homme sur la terre n'a pu avoir. Toute la Bible rend témoignage à ce personnage incroyable. Qui pourtant, nous l'avons vu, n'était pas un personnage qui était sans faute, sans erreur. Mais c'est un homme qui a réussi sa destinée. Et nous sommes en train de regarder les clés qui ont fait qu'il a pu réussir sa destinée. Il a utilisé certaines clés. Parce que rappelez-vous, vous n'avez pas été créé par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a un but, une destinée pour vous. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Pour chaque personne, chaque être humain. Personne n'est là par hasard. Et Dieu a écrit d'avance notre avenir. Maintenant, pour que cet avenir se réalise, eh bien, nous avons une part à jouer. Et c'est ça que, pour la plupart du temps, les gens ne réalisent pas dans leur vie. Ils pensent que tout va se passer tout seul, qu'ils n'ont rien à faire, et surtout, les chrétiens sont très forts dans ce domaine-là. Ils pensent simplement que, voilà, Dieu m'a parlé, Dieu a dit ça sur moi, donc ça va se produire. Non, il y a des choses que tu devras faire.
Il y a des étapes par lesquelles tu devras passer.
Il y a des clés que tu dois utiliser. Et la parole de Dieu nous a été donnée pour notre instruction.
Afin que nous puissions comprendre comment Dieu fonctionne.
Quelle est la mentalité de Dieu.
Pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu fait.
Sinon, tu échoueras lamentablement.
Sinon, tu feras partie encore de cet immense groupe de gens qui sont nés de nouveau.
Et qui ont été enterrés avec leur destinée
sans qu'elle se réalise.
Dieu a écrit d'avance notre destinée,
mais il faut que tout ce qu'il a écrit d'avance
puisse se réaliser.
Et pour cela,
c'est ta part que tu dois jouer. Alors, nous avons vu dans la vie d'Abraham qu'il y a eu des clés qui lui ont permis de réussir sa destinée.
Sa destinée globale, Abraham l'a réussi.
Dieu lui a parlé au début.
Et quand nous regardons la fin de sa vie,
Abraham a réussi.
La première clé,
c'est d'avoir une vision dans notre vie.
Rappelez-vous ce que dit Proverbe 29:18, sans vision, le peuple périt, le peuple ne sait pas où il va.
Le peuple est sans frein.
Le peuple fait n'importe quoi.
Et nous avons beaucoup de chrétiens qui font n'importe quoi et qui tournent en rond, qui vont nulle part.
Donc la première chose que tu dois faire, c'est chercher la face de Dieu.
Et lui dire, Seigneur, j'ai été sauvé, merci, je vais au ciel, gloire à Dieu, mais je ne veux pas perdre mon temps sur cette terre.
Je ne veux pas laisser un vague souvenir sur cette terre, mais je veux laisser une empreinte de ma vie ici.
Que les gens puissent se souvenir de moi
en voyant quelqu'un qui a marché avec toi, Seigneur.
Donc,
Une vision, c'est important et c'est Dieu qui nous la donne. Dieu nous révèle notre destinée. Il faut simplement se mettre en position, nous en avons déjà discuté. La deuxième chose, nous l'avons vu, c'est l'obéissance. Si vous avez votre destinée qui vous a été révélée par Dieu et que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment à faire la bonne chose, alors que Dieu vous demande certaines choses, ça ne se passera pas. Vous allez tout bloquer et vous ne saurez rien de plus, parce que votre destinée révélée en première phase, c'est très général. Dieu a dit à Abraham, vas-y, sors de la maison de ton père, là, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction, etc. etc. Dieu avait et Dieu lui avait donné les grandes lignes, c'était tout. Mais parce qu'Abraham a obéi, il a pu savoir plus sur sa destinée. Rappelez-vous que l'obéissance n'est pas un don de Dieu. L'obéissance est un trait de caractère. L'obéissance s'apprend. C'est un choix. Mais l'obéissance amène la promotion, amène la révélation, et nous l'avons vu aussi, amène la protection. Et nous avons remarqué, nous avons pris deux types de personnes qui étaient très désobéissantes. Et nous avons vu particulièrement la vie du roi Saül, qui avait un appel, une onction, une destinée claire, et qui a tout mis par terre. Parce que c'était un homme rebelle. C'était un homme qui ne comprenait rien, qui ne se corrigeait pas. Il avait des traits de caractère épouvantables qui l'ont amené à faire naufrage, lui et toute sa famille. Alors, ensuite, nous avons vu être un adorateur. Et je vous ai montré qu'il est très important d'apprendre à vivre dans la présence de Dieu, de développer sa relation avec Dieu. Souvent, les gens ressentent un appel, ont un appel de Dieu, ils pensent que ça va se passer tout seul. Non, entre le moment où il y a l'appel et le moment où vous commencez réellement à entrer dans la première étape de votre destinée, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'est d'apprendre à creuser sa relation avec Dieu, alors que rien de notre destinée ne se déroule devant nos yeux. Tu es là, tu attends. Si tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Creuse ta relation avec Dieu. On a vu qu'Abraham régulièrement adorait Dieu. Une des grandes raisons de l'échec de Saül et de l'échec de Samson. Rappelez-vous que Samson avait, c'était un juge en Israël. Il avait lui aussi un appel précis. Donc une vision de Dieu, il avait une onction de Dieu. Mais cet homme, nulle part, vous verrez qu'il cherchait le Seigneur. Samson n'était pas un adorateur. Et il a gâché complètement sa destinée. Saül n'était pas un adorateur, il avait juste le vernis du religieux. Et il a été dans un échec lamentable. Donc, être un adorateur, creuser dans la présence de Dieu, chercher Dieu davantage pendant les moments où vous n'êtes pas encore dans votre destinée. Ensuite, nous avons vu que pour vraiment rentrer dans notre destinée, nous devons marcher dans la foi. Abraham était un homme de foi. Et nous avons vu différents types de foi que nous devons avoir et dans lesquels nous devons grandir. À partir du moment où nous voulons vraiment marcher dans notre destinée. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. Et je vais vous montrer que si vous voulez être quelqu'un de destiné, vous devez comprendre comment vous devez vous comporter avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vous garantis, quand on est jeune, on pense qu'on va révolutionner le monde entier. Nous avons un bel exemple de cela avec Joseph. Lorsque Joseph avait 17 ans, il reçoit des super songes de Dieu. Il reçoit un appel gigantesque. Et c'est un gamin qui est rempli d'orgueil, qui est le petit préféré du père. Il a les promesses de Dieu sur le dos. Il avait tout pour réussir.
Il
pensait qu'il allait révolutionner le monde en deux jours.
Donc,
au niveau des relations, ça ne marchait pas du tout dans sa famille.
Et
ça a été une catastrophe. C'est au travers des mauvaises relations qu'il avait avec ses frères où il a eu tous ces problèmes-là. Dieu a utilisé les problèmes de Joseph. Je vous rappelle que Dieu utilise les moments difficiles par lesquels nous passons. Dieu ne les crée pas. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais Dieu utilise cela pour faire une école qui s'appelle l'école de la souffrance.
Et
l'objectif, c'est de faire travailler notre caractère pour que nous puissions rentrer dans l'appel que Dieu met sur nos vies. Donc ne dites jamais quand il y a des mauvaises circonstances, c'est Dieu qui a créé ça.
Non,
par contre, soyez intelligent comme Joseph, utilisez les circonstances pour être transformé.
Donc
souvent quand nous sommes jeunes, nous ne faisons pas attention aux relations.
On y
va, on fonce.
Si
ça fait boum avec des gens, bon, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Et si ça recommence ailleurs, boum, bon, c'est pas grave, je vais trouver d'autres amis. Ça c'est bien quand t'as 20 ans. Quand t'as 40 ou 50 ans que t'as fait ça toute ta vie, tu vas te retrouver dans de sérieux problèmes. Il faut que tu saches une chose. Tu ne pourras jamais réussir ta destinée tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Plus tu vieilliras, plus tu le réaliseras. Je vois par exemple, il y a des serviteurs de Dieu. Ils veulent construire leur empire. Ils construisent quelque chose sur leur don. Et ils font un gros mur. En disant, c'est moi, voici mon ministère. Bon courage d'ici quelques années. J'en ai vu comme ça. Et puis après, du jour au lendemain, ils se disent, ah, il faudrait peut-être que j'ai des relations avec les autres pasteurs.
Et
alors,
ils
commencent à vouloir organiser, envoyer des invitations partout. Et puis ils se demandent pourquoi les autres pasteurs ne viennent pas. J'en connais un comme ça, il a ignoré les autres pendant 15 ans. Et puis aujourd'hui, il vient vers les autres et dit, hello, je suis là. Venez, on va faire une réunion pastorale. Je
ne
parle pas de quelqu'un d'ici, je parle de quelqu'un d'un autre continent. Et il s'étonne que les autres pasteurs ne viennent pas vers lui. C'est normal. Il n'a pas travaillé les relations pendant toutes ces années. Vous savez, les relations, c'est quelque chose qui est très important dans la vie.
Faut
faire attention. Aujourd'hui, on va en parler.
Ce sera
juste une partie de ce qu'on va voir.
On
va parler des relations. Parce que c'est quelque chose qui est très important à long terme. Si tu veux réussir dans ta destinée, il va falloir que tu sois quelqu'un de bonne relation. Que tu ne fasses pas n'importe quoi avec ton prochain. Parce que si tu fais n'importe quoi avec ton prochain, des années plus tard, ça te sera très difficile de réaliser ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Les relations, c'est quelque chose qui est très précieux. Et il y a des façons de faire et des façons de ne pas faire. Alors nous allons regarder dans la vie d'Abraham. C'est très très intéressant. Abraham avait compris la valeur des relations. Au chapitre 12, nous savons Abraham reçoit ses promesses, il sort. Nous avons très largement étudié ces passages-là. Il y a une famine en Égypte, il fait une gaffe, il descend en Égypte, il a failli perdre toutes ses promesses, perdre sa destinée. Début du chapitre 13, il revient sur le terrain de sa bénédiction, sur son Canaan. Donc tout cela nous l'avons déjà vu, ça a été enregistré en DVD tout ça, ou en audio, si vous voulez tout, vous pouvez tout réécouter, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, Abraham va avoir un problème relationnel qu'il va devoir gérer. C'est avec son neveu Lot.
agira ingorane na mwishwa wiwe Lot.
Il avait sorti Lot avec lui.
Maze yari yajanye na Lot.
Lot l'avait donc suivi avec quelques richesses qu'il avait.
Lot yari amukurikiye n'ubutunzi yari afise.
Et à partir du verset 1 chapitre 13, je vais le lire en français. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev, le sud donc d'Israël, le désert du sud, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Bethel et Haï. À l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. On peut juste lire le verset 8 et le verset 9 en Kirundi, s'il vous plaît.
Hagati yanje nawe no hagati yabungere banje nabawe kuko tuvukana intege igihugu cyose kiri imbere yawe ndakwinginze ngo duhane nta niwahitamwe kuja ibumoso nanje ndaje buryo niwaje buryo ndaje ibumoso.
Alors ici on a un simple incident qui aurait pu très très mal tourner.
Ah turabona kantu menga kabaye kagasanganya mbuga kare kushobora kurangira nabi.
Et on va voir la qualité de la façon avec laquelle donc Abraham regardait ses relations. Il y a une très belle leçon ici. Rappelez-vous qu'Abraham, c'était un peu le boss, le grand leader. C'est lui qui avait reçu les promesses. C'est lui à qui Dieu avait dit, tu vas sortir de la maison de ton père et voilà ce qui va se passer dans ta destinée. Et la Bible nous dit qu'il a pris Lot avec lui. Donc c'était pas Lot qui avait pris des initiatives, c'était Abraham qui avait pris l'initiative d'obéir à Dieu, mais en même temps, il en avait fait bénéficier quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Lot. Et en fait, Abraham ici va nous montrer la qualité qu'il avait mise sur les relations. C'est lui le leader. Et c'est lui qui va prendre une certaine initiative. Et il va appliquer un principe qui est très important d'appliquer dans nos relations. Abraham voit bien donc qu'il y a des problèmes qui sont en train d'être générés. Il y a quelque chose qui ne va pas entre ces bergers et les bergers de Lot. Et il sent que ça va monter jusqu'à la tête, c'est-à-dire entre les deux leaders, que ça va créer un problème relationnel entre les deux leaders. Et Abraham donc prend l'initiative et il va faire quelque chose qu'il est très important d'apprendre à faire dans nos relations. Abraham aurait pu avoir l'attitude suivante. Il aurait pu dire à Lot, bon, écoute mon petit, c'est moi qui t'ai invité à venir dans le bateau. On a fait un peu de voyage ensemble. Écoute, maintenant tu commences à être un poids pour moi. Tu commences à m'énerver, tu me crées des problèmes. Écoute, tu dégages par là. Et moi, je reste là où j'ai envie de rester. Abraham n'a pas fait ça. Parce qu'Abraham a appliqué un principe important. De ne pas mettre ses intérêts propres avant la relation.
Oh,
écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Il n'a pas mis ses intérêts perso devant le prix à payer pour la relation avec Lot. Et ça, c'est très important dans la vie. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens. Ouh là là, beaucoup de chrétiens. Ce qu'ils aiment faire, c'est toujours être dans une relation avec quelqu'un
avec
pour objectif de les pomper un maximum. En fait, la mentalité, c'est tu m'intéresses pour ce que tu peux me rapporter. Et ça, frères et sœurs, c'est penser comme le monde pense. Par exemple, quand deux fiancés se fréquentent et que derrière tout ça, l'agenda caché, c'est qu'est-ce qu'il peut m'apporter ou qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, ça c'est la cata. Un mariage qui est fondé sur ça, c'est par terre. Au bout de quelques années, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Si c'est ça, l'intérêt de la relation, c'est déjà tronqué, c'est déjà pourri. Parce que le jour où ça va chauffer, tu vas regarder mes intérêts. Parce que ta mentalité, c'est toujours mes intérêts. Tu es toujours en train de placer ta relation par rapport à tes intérêts. Si tu veux la recette des relations pourries, l'ingrédient principal, c'est toujours dire mes intérêts.
Tu
construis toutes tes relations sur mes intérêts en premier. Et tu feras toujours une recette qui va être pourrie, immangeable. Ta vie sera une ruine. Relation après relation, ça sera pourri.
Oh,
pas les premiers jours. Les premiers jours, tu tireras ce que tu veux tirer. Mais au bout de quelques mois et au bout de quelques années, tu perdras tes relations. Parce que l'autre, il va chercher à faire la même chose envers toi.
Et
évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Boum! Vous allez vous rentrer dedans. Et paf, ça va casser. Alors, ça peut casser une fois, parce que des fois, vous savez, on ne sait pas comment faire dans la vie. C'est comme on a jamais été mari une première fois ou femme une première fois. C'est la première fois quand on se marie, c'est la première fois. Donc on apprend sur le tas. On n'a jamais eu une vie avant pour apprendre. On apprend dans cette vie qui est là. Donc quand on grandit dans cette vie, on apprend en même temps. Et souvent, malheureusement, on n'apprend pas de la meilleure manière.
Donc,
se tromper, ça arrive à tout le monde. Parfois, on est là. On commence une relation d'amitié avec quelqu'un, ou une relation de business, ou différentes choses. Et on est là. On cherche à retirer tout le temps des joutes.
Bon.
Et d'un seul coup, paf, ça pète. Bon, alors on est là, boum. Ok.
Bon,
ça peut arriver. Maintenant, si la fois d'après, ça recommence. Là, tu dois commencer à te poser des questions. Et puis, si tu continues et encore, et qu'à chaque fois, pouf, ça te pète dedans, là, tu dois vraiment te poser la question si le problème, c'est pas toi. John Maxwell a dit quelque chose. J'ai cité ça plusieurs fois. Il a dit, si Bob a des problèmes avec tout le monde, ça veut dire que c'est Bob le problème. Vous savez, souvent il y a des gens qui peuvent dire des choses sur nous à droite et à gauche. Tant que c'est des mensonges, ne t'en fais pas. Tant que c'est des calomnies, ne t'en fais pas. Ça doit glisser sur toi, tu dois te protéger. Par contre, il y a des gens qui parfois ont un bon cœur, sont bien intentionnés, et te disent, tu sais, ça ne va pas ça dans ta vie. Ah non, c'est le diable. Non, le Seigneur ne m'a rien dit. Fais attention, parce que tu as aussi des frères et sœurs qui ont le Saint-Esprit en eux, et qui parfois peuvent te dire des choses vraies. Qui peuvent te dire, toi, tu as un problème par rapport à ça. Alors, n'essaye pas de jouer les super spirituels. Je vais jeûner et prier pour savoir si ce que tu me dis c'est vrai. Non, sois honnête avec toi-même. Sois capable de dire,
okay,
pourquoi est-ce que cette personne me dit ça, que j'ai tel problème? Et puis, tel autre me redit encore, Et ça fait la troisième personne qui me parle de ça.
Sois
capable de t'examiner toi-même.
Vous
savez, on est très fort pour examiner les autres.
Mais
on est beaucoup plus fait pour s'examiner soi-même.
En
général, faire un examen honnête de qui on est et ce qu'on fait et comment on se comporte, c'est beaucoup plus difficile. Bon, on est dans la boîte.
On a
6 milliards d'autres qui nous regardent.
Il y a
nous qui sommes dans notre propre boîte.
Donc
parfois c'est difficile à évaluer.
Mais
soyez honnête et sincère. Si vraiment les gens commencent à vous dire certaines choses,
il faut écouter.
Parce qu'il y a un moment, ils nous regardent.
Si
tu as constamment des problèmes de relations avec les autres,
arrête
de dire c'est le diable, c'est les
autres.
Parce qu'on est très fort. Vous savez, quand on a un problème avec quelqu'un,
on
a toujours tendance à dire c'est l'autre.
C'est
de sa faute.
C'est
lui le problème.
Bon,
des fois, c'est vrai.
Des fois, c'est vrai, c'est l'autre.
Si la personne à répétition crée toujours le même problème, tu peux dire effectivement, il a un problème.
Et
dans notre relation, ça a été la même chose.
Mais
des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est nous.
Le problème.
Et nous devons être honnêtes.
Nous
devons faire attention. Fais toujours un test.
Est-ce
que dans une relation, par exemple, tu as un problème avec quelqu'un,
qu'est-ce
que tu vas faire?
Est-ce
que tu vas privilégier tes intérêts?
Ou
est-ce que tu es capable de dire non, je préfère renoncer à certaines choses,
mais que
ça ne se termine pas mal entre nous?
Comment
est-ce que tu réagis?
Rien
que sur ce test-là. Est-ce que tu es capable des fois de dire, écoute, je préfère perdre un peu d'argent là, mais je ne veux pas qu'on se dispute, ça ne sert à rien.
Je préfère
renoncer à ça. Bon, on a été trop loin, on s'est trompé, j'aurais pas dû m'engager autant. Je préfère réparer certaines choses. Mais c'est pas la peine qu'on se dispute. C'est pas la peine que ça se termine mal.
Vous
voyez, là, Abraham aurait pu couper en disant, écoute, tu t'en vas, tu me déranges.
Il a
dit non, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il lui a laissé le choix alors que c'était lui le leader. Ça, ça montre que Abraham ne voulait pas. Au prix de disputes entre eux. Alors qu'ils étaient bien, ils étaient bénis, il n'y avait pas de quoi se disputer.
Mais
non, tu vas là, moi j'irai de l'autre côté, il n'y a pas de problème, mais on ne se dispute pas, ça ne sert à rien. Donc il a été capable de mettre la relation avant
pour
résoudre le problème. Qu'est-ce que tu es capable de faire?
Te
battre jusqu'au bout
et
que tout casse de partout,
ou
est-ce que tu es capable de dire non, je préfère dans ce cas-là perdre un peu, c'est pas grave, c'est pas grave, le Seigneur me donnera meilleur. Ça, c'est une bonne mentalité.
C'est
pas facile, c'est pas facile, parce que souvent on veut avoir des droits jusqu'au bout.
Eh oui,
c'est bien.
Mais
d'un autre côté,
parfois
tu te retrouves vraiment dans des trous.
Parce que
tu casses une relation là,
et
t'en casses encore une ici,
et
encore une ici,
et encore une ici.
Et après tu te retrouves tout seul. Et les gens qui vont commencer à vouloir te connaître, ça va mal se passer à l'avance. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut apprendre à faire. C'est ne pas entrer dans une relation avec quelqu'un d'amitié, de business ou quoi que ce soit, avec toujours cette idée: je placerai toujours mes intérêts avant la relation. Maintenant, tu apprendras à être un peu plus prudent dans tes engagements aussi. Parce que des fois, on s'engage dans tout et n'importe quoi.
Quand
on n'a pas suffisamment d'expérience de la vie.
Et on se plante et on s'est engagé
et on s'empêtre dans des trucs, on ne sait plus où on en est après. Donc ça aussi, ce sont des leçons de la vie. Mais placez toujours la relation avant votre intérêt personnel. Relationnellement, voici aussi ce qu'Abraham va faire. C'est le deuxième point, c'est savoir reconnaître l'onction sur les gens qui sont oints par Dieu. Au chapitre 14,
Abraham,
un peu plus loin, la Bible nous dit qu'il était prophète. C'était un homme de Dieu, mais il savait faire quelque chose. Il savait reconnaître une onction sur quelqu'un et la respecter. Au début du chapitre 14, il va y avoir des gens, des rois. À l'époque, les rois, ce n'étaient pas des rois sur des grandes nations, c'était des rois sur des territoires, des tribus. Et en fait, il y a eu un certain nombre de rois qui, d'ailleurs, était très loin, souvent en Mésopotamie ou très loin de Canaan à l'époque, qui sont venus faire la guerre, et en particulier au roi de Sodome. Et il y avait Lot qui habitait à Sodome avec sa famille, dans le coin, et Lot a été enlevé par ces rois qui ont fait la guerre. Les biens de Lot ont été enlevés, sa femme, etc., ses enfants. Abraham va le savoir. Il va réagir. Et il va donc aller à l'encontre de ces rois. Et il va ramener, donc au verset 14 de Genèse 14, il est dit, après qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, ramena aussi Lot, son frère, son neveu précisément, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On peut lire 17 à 20.
Reka mere ku murongo wa 17 ngo atabarutse ku gice cya 14 itanguriro afuye kunesha Kedorawoma nabandi bami bari kumwe umwami w'i Sodomu amusanganirira mu kiyaya cishave nico kiyaya cy'umwami kandi Melkisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima na vino aheza gira Aburahamu aturagahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyene ijuru n'isi kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko nuko Aburahamu amuha ikigira cumi muri byose.
Un deuxième principe relationnel qu'Abraham utilisait,
itegeko rya kabiri tubona ngaho Aburahamu yagenderamo,
c'était la reconnaissance des gens qui sont vraiment loin de Dieu.
Ku bijanye n'imigenderanire n'ukumenya by'ukuri abantu basizwe amavuta n'Imana.
Et là, je vais vous expliquer certaines choses.
Aho ngo bakubasugubanura ibintu bitari bike,
qui sont des choses qui sont très importantes à vivre et à apprendre à vivre. Abraham, comme je vous l'ai dit, était prophète. Mais c'était un homme qui savait reconnaître l'onction sur des gens. Et une des clés pour réussir dans votre vie spirituelle et dans votre destinée en général, c'est d'apprendre à reconnaître les onctions sur les vrais serviteurs de Dieu. Et à faire attention à ce que vous dites sur les serviteurs de Dieu. Ça, je vais vous expliquer ce principe et je vais vous montrer. Nous sommes dans un royaume. Dieu a oint un certain nombre de personnes. Là, je ne parle pas de personnes qui s'appellent pasteurs, enseignants, prophètes et tout ce que vous voulez et qui n'ont pas d'onction, qui s'auto-instituent. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Il y a des escrocs, il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des gens bizarres. Je ne parle pas de ces gens-là. Ça, ces gens-là, dénoncez-les, frappez fort. Et si vous avez besoin d'un bâton, je vous en prêterai un. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est inacceptable. Ce sont des gens qui font du mal, qui utilisent le nom de Dieu et l'évangile de Christ, et qui font du mal aux êtres humains, et particulièrement aux brebis qui sont fragiles. Et ça, c'est inacceptable, et il faut être radical par rapport à ça.
Ça,
il faut être très clair. Les faux serviteurs de Dieu, les escrocs, les faux prophètes, les manipulateurs, Pigasana.
Frappez fort.
Il n'y a pas de problème. On
ne
parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui ont de réelles onctions. Et si vous voulez vraiment réussir dans votre destinée, il va falloir vous positionner dans certaines attitudes par rapport à ceux qui sont loin. Vous savez, on rencontre beaucoup de gens dans notre vie. Moi, personnellement, j'ai vécu sur 3 continents. Je connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Je connais des gens qui sont super. Il y en a d'autres que je ne connais pas personnellement, mais que j'admire au travers des médias. Il y en a d'autres avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Il y en a certains où je vois vraiment de très bonnes choses et d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas non plus du tout d'accord. Mais j'ai appris une chose. Aller chez le couturier. Je vous garantis, c'est d'une grande valeur devant Dieu. Moi, quand je me suis converti au Seigneur, quand des gens m'ont amené au Seigneur, j'ai été éduqué dans une mauvaise mentalité de critique.
Et
le couple qui nous a amenés au Seigneur, ils faisaient des réunions le mardi soir de prière. Et ils étaient super spirituels, ils priaient des heures et des heures. Mais avant de prier, en prenant le café avant de prier, on avait le droit à la réunion de critique. Très bonne ambiance pour commencer une réunion de prière. Moi, je venais de recevoir le Seigneur et on me racontait que le pasteur il était ceci, que le pasteur il avait fait ça, que l'autre pasteur il avait fait ça, qu'un tel pasteur qui était dans le sud de la France avait fait ceci, que l'autre dans le nord il a fait ça, que dans l'ouest il a fait ça et que dans l'est il a fait ça. Et quand vous venez juste de recevoir le Seigneur, vous n'avez rien besoin d'entendre. C'est très mauvais. Parce que ça construit en vous une espèce d'orgueil spirituel.
De,
moi, je sais tout. Vous savez que ces gens qui nous ont amenés au Seigneur, ils avaient un bel appel de Dieu. Je les avais pas revus depuis 15 ou 20 ans. Et franchement, ils ne sont pas rentrés dans ce que le Seigneur leur avait dit. Et je sais qu'une grande partie, c'est à cause de ces critiques intempestives constantes. Même aujourd'hui, ils ne vont pas dans une église. Alors parfois, ils amènent des âmes au Seigneur et ils les baptisent dans une rivière en France. Et
ils
les amènent nulle part. C'est dramatique. Dramatique. Dieu a loin des gens. Ces gens ne sont pas parfaits. Un serviteur de Dieu n'est pas parfait. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais si vous voulez vraiment être béni par Dieu, apprenez à le faire. Moi, je vous assure, il a fallu que je me corrige, que je me repente devant le Seigneur avec
lui.
Il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand on vient me raconter des histoires qu'un serviteur de Dieu a faites.
Ça ne
m'intéresse pas. Pour moi, c'est de la poubelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire.
Ce
n'est pas d'aller avec quelqu'un, main dans la main, et aller dans les ordures.
Ça ne
m'intéresse pas. Moi, le nez dans des ordures, ça ne m'intéresse pas. On parlait des bons parfums et des mauvais parfums tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire.
Mais
ne vous intéressez pas, ne passez pas votre temps dans des trucs comme ça, ça sert à quoi? Ah oui, mais il a fait ça, et il a dit ça. Et alors? C'est qui le propriétaire? C'est toi? T'es son propriétaire? Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur rendra des comptes. Il demandera des comptes à ses serviteurs.
Ce
n'est pas ton business. Ton business, c'est d'être là où tu dois être. Ça, c'est très clair. Et des fois, il y a des gens. Ils veulent venir dans cette église. Et la première chose qu'ils me disent, parce que je ne suis pas fou, quand quelqu'un veut venir à l'église, je lui pose quelques questions sur sa vie spirituelle. Et je l'écoute. Alors c'est intéressant, des fois vous écoutez des gens parler 30 minutes. Dites rien, vous attendez. Personne parle, parle, parle. Et rapidement vous la situez. Si les premiers mots c'est ah pasteur vous savez je suis venu à l'église El Shaddai c'est extraordinaire vous êtes extraordinaire vous prêchez extraordinairement déjà ça commence mal ça et puis après 5 minutes après
oh.
Dans l'église où j'étais. Vous savez pas ce que le pasteur a fait. C'est peut-être vrai. Mais franchement, ça m'intéresse pas. Ça
ne
m'édifie pas. Ça n'encourage personne. Et le pire, c'est que c'est pas comme ça que la personne, même si c'est vrai, même si la personne a été blessée. C'est pas comme ça que la personne va guérir. Parce que si vous êtes là, que vous parlez mal de ce pasteur-là, d'ici un an ou deux, je vais passer à la casserole moi aussi.
Il
faut être clair. Il faut être clair. Non. Si, peut-être que tu peux être blessé à droite à gauche, et on a tous été blessés d'une manière ou d'une autre. Mais pour guérir, la meilleure méthode, c'est pas d'aller raconter toutes les poubelles du coin. Tais-toi. Pardonne. Tourne la page. Remercie pour ce qu'il a fait du meilleur pour toi. Garde le positif. Enterre tout ce qui est négatif. Et ouvre ta destinée. Sinon, mon cher ami, tu n'iras pas de gloire en gloire, mais tu iras de chute en chute. Et de défaite en défaite. Résultat garanti. Donc, ne fais pas ça. Tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec un serviteur de Dieu. Prends ce qui est bon. Le reste, tu te tais. Tu peux avoir tes propres pensées, tes propres opinions. Mais ce n'est pas la peine d'aller raconter tel ou tel truc. Ça bénira personne. Ça fera chuter les brebis qui sont faibles. Et ça ne changera pas la personne si elle a vraiment des problèmes. Voyez, donc ça n'apporte rien de bon. Abraham avait un respect pour Melchisedek. Melchisedek, c'est un type de Jésus, c'est un autre sujet. C'était le roi de Salem. En fait, cette ville est devenue Jérusalem. Et Abraham est venu vers lui. Et a honoré ce serviteur, a reconnu qu'il était. C'est important. Il y a une histoire de David aussi. Dans la Bible.
David
avait cet appel extraordinaire. Il savait qu'il allait prendre la succession de Saül. Samuel lui avait prophétisé. Et il y a un moment où il aurait pu le faire par sa chair. Regardons ensemble dans 1 Samuel, chapitre 24. Je vous assure, je vous enseigne ici des principes. Je ne vous crie pas, je ne suis pas en train de prêcher. Alléluia, Amen. Mais je vous enseigne des principes de vie ici.
1 Samuel 24.
Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à réussir votre vie pour la gloire du Seigneur. 1 Samuel 24. C'est tout à fait une illustration de ce que je veux vous montrer ici. Vous ne pourrez pas réussir si vous n'appliquez pas certains principes. Sachez une chose, si vous n'êtes pas dans la dimension dans laquelle vous aimeriez être, c'est parce que vous avez des choses à régler et vous avez des mentalités à changer, parce que Dieu ne change pas, c'est à nous de changer. Si Dieu t'a parlé sur quelque chose et que ça fait des années que c'est encore au même point, il faut que tu regardes pourquoi ta destinée ne s'accélère pas. Et des fois, il y a de tellement grosses pierres devant les ponts dans lesquels Dieu veut nous faire passer
qu'on
ne peut pas passer le pont sans enlever la grosse pierre. Il y a un temps où Dieu veut nous faire passer par des frontières, par des ponts. Le problème, c'est que tu as une immense pierre devant toi qui bloque la route. Et la seule solution, c'est pas de dire Dieu enlève la pierre. Pourquoi cette pierre est là? Non, c'est à toi de l'enlever. C'est à toi de changer. Et on n'aime pas changer. Parce que changer, ça nous implique nous. C'est plus facile de dire Seigneur, change-moi. Seigneur, change l'autre. Ça
ne
nous remet pas en question. David était à un moment terrible de sa vie. Il avait reçu une vision de Dieu. Il avait commencé à obéir. Mais il était persécuté. Persécuté par qui? Par celui de qui il devait avoir la succession.
Oh,
mince alors. L'obstacle était Saül. Et il va se passer quelque chose où David va avoir une occasion par lui-même d'enlever cet obstacle. Mais il ne va pas le faire. Il est dit au chapitre 24, verset 1, « De là David monta vers les fortins d'Engedi où il habita. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport. Voici que David est dans le désert d'Engedi. Saül, qui cherchait David à tout prix, qui voulait le tuer, prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des boucs sauvages. Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action telle que de porter la main sur lui. » Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre Saül. Puis Saül se dressa pour sortir de la caverne et continua son chemin. On va lire le verset 6 et le verset 7, s'il vous plaît, en Kirundi.
Arakabishira kure yanje sinkagira ikintu nkico ngirira umwami wanje kandi ari we uhoraho yimikishije amavuta sinkamukoze ku kuboko kuko yimikishijwe amavuta n'uhoraho uko niko Dawidi yatesheje ingabo ziwe ntiyabakundira kugurukira kuri Sauli nuko Sauli arahaguruka ava muri iyo senga arigira.
Deux fois, quelques chapitres plus loin, vous trouvez à peu près la même histoire. Deux fois, David aurait eu l'occasion d'éliminer physiquement Saül et donc après de prendre la royauté. C'est un moyen humain. David n'a pas fait ça. Parce qu'il respectait l'onction qu'il y avait sur Saül. Pourtant, Saül faisait n'importe quoi. Il a amené Israël nulle part. C'était un mauvais roi. Dieu avait dit, maintenant ça suffit. Il ne veut pas m'obéir, il me désobéit, il continue, il persévère, je ne peux pas le garder. Mais David savait qu'il
ne
fallait pas qu'il touche à celui qui était loin de Dieu. Parce que David savait une chose. S'il touchait à celui qui était loin, il touchait à l'onction. Donc il touchait à Dieu. Malheur à celui qui veut toucher à Dieu. Et David le savait. Donc David a respecté cela. On pourrait se poser la question. Est-ce que vous pensez que David aurait été loin par Dieu en tant que roi s'il avait tué Saül? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Je crois qu'il aurait loupé sa destinée. Il serait passé à côté de sa destinée. Donc ce respect, relationnellement, de ceux qui sont loin, qu'on soit d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux. Je parle de gens qui sont vraiment
loin.
Faites attention à cela. Si vous voulez vraiment réussir votre vie, apprenez à fermer votre bouche. Vous pouvez avoir votre opinion. Ça, vous la gardez pour vous-même.
Mais
avec votre bouche, ne commencez pas à raconter tout et n'importe quoi. Ça peut être très dangereux pour votre vie. J'en ai vu des gens comme ça.
Et
pourtant, des gens qui avaient tout ce qu'il fallait pour réussir.
10 ans, 15 ans,
20 ans plus tard, ils sont par terre. Parce qu'ils n'avaient aucun respect pour l'autorité spirituelle. J'ai vu des chrétiens avoir un bel avenir devant eux. Ne jamais entrer dans ce que Dieu avait. Parce qu'ils n'avaient aucune révélation sur l'autorité spirituelle. J'ai vu des ministères. Commencer à grandir, à être touché par Dieu. Et comme ils avaient cette sale mentalité de critique envers des hommes et des femmes loin de Dieu, ne jamais entrer dans ce que le Seigneur avait
prévu.
Ils sont toujours restés au petit niveau où ils étaient. Il faut être prudent dans la vie. Relationnellement, faites attention, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas des choses qu'on sème aujourd'hui et qu'on récoltera demain. Ce sont des choses qui mettent 5, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, des fois, à pousser dans nos vies. Et on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a des principes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans un royaume et Dieu a donné des principes. Le tout, c'est que nous les appliquons. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois? Il y a des gens qui se font vraiment des illusions. Ils sont tout le temps en train de dire:
ah,
Seigneur, je t'aime. Et dans leur relation, il n'y a rien de pire. Ils sont, c'est pourri. Comment est-ce que tu peux avoir une relation mûre avec Dieu si
tu es
incapable d'avoir de bonnes relations avec les gens? Ça
ne
marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Apprends à travailler sur toi. Apprends à
te
changer. Apprends les bons principes de la parole. Et tu réussiras. Il y a d'autres principes relationnels que je vous enseignerai dans une session suivante. Père, je prie pour chaque personne ici. Je prie pour que tu nous apprennes quand, Seigneur, nous avons des relations avec nos semblables, de ne pas mettre nos intérêts en premier, Seigneur, mais d'apprendre à regarder la relation en premier pour préserver et développer des bonnes relations. Père, nous avons besoin de bonnes relations les uns avec les autres, Seigneur, vis-à-vis de tous.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.